J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, comme chaque semaine pour la revue de presse, Élisanne Pellerin. Bonjour Élisanne.
Bonjour.
On va parler de toutes sortes de choses. Vraiment, je trouve la mouture du 11 décembre là, est intéressante.
On a une belle mouture cette semaine. Je me suis forcée pour vous, François.
pour tous nos auditeurs
pour
aussi.
Tous les auditeurs,
ça, c'est, oui, voilà. Il y a eu un grand sondage en France, puis encore une fois, ce qui se passe là-bas ressemble étrangement à ce qui se passe probablement
oui.
ici.
Donc, on parle du rapport de la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui dévoile qu'il y a des préjugés persistants sur les personnes en situation d'handicap. Quelle surprise! Et donc, 64% des Français estiment que le handicap serait un obstacle au bonheur et à une vie épanouie. On parle aussi, donc, que 31% des moins de 25 ans pensent que les personnes en situation d'handicap coûtent trop cher à la société.
Oh, okay.
Et c'est le cas des 11% des 50 ans et plus. Donc, on voit que chez les plus jeunes,
ben,
c'est quelque chose qui est un peu plus répandu.
Peut-être que, parce que souvent, des gens en avançant en âge vont commencer à vivre avec des limitations hein, dues à différentes maladies. Puis là, ils auront peut-être un peu plus d'empathie envers les autres personnes qui, comme elles, vivent avec des limitations. Alors que quand on est trentenaire et puis
le monde nous appartient.
Pétant de santé, ouais, le monde nous appartient. Puis on trouve ça un petit peu tannant de payer des impôts et des frais ou des choses comme ça pour les gens qui, finalement, sont coûtent cher. Alors, mais ça prend beaucoup de sensibilisation, ça, je pense que...
Oui, bien, c'est là où la bas blesse, en fait, quand on se rend compte que les gens ont des préjugés, non seulement quant à l'argent, mais aussi à la possibilité que les personnes en situation de handicap soient capables d'être heureux et de considérer une façon d'être utile à la société. Et ça, c'est clairement, là, au niveau des préjugés, un préjugé qui reste...
Ouais. Pas de vie épanouie, hein, c'est
pas,
ça.
Pas de vie épanouie, pas de bonheur, pas d'amis, hein, vie conjugale, rien de tout ça.
Exact, tout à fait. Ben oui, nous, on passe notre journée à la maison à regarder par la fenêtre. Mais quand t'es handicapé visuel, c'est pire.
oui.
Voilà. Donc, 38% des hommes estiment que certains handicaps justifient de restreindre l'accès à plusieurs droits. Oh, il faudrait que fouiller cette question-là, là, parce que justifie de restreindre l'accès à des droits. Ça me semble un petit peu épeurant à entendre cette phrase-là. Les hommes sont également majoritaires à penser que si l'un de leurs collègues devenait handicapé, ce serait plus compliqué de travailler avec lui ou avec elle. Et là, ça vient toucher l'emploi, puis malheureusement, domaine où il y a beaucoup de préjugés.
Oui, bien, en fait, c'est ça. La question était vraiment de savoir l'intégrité en emploi au niveau du salaire en emploi également, au niveau des tâches à l'emploi. C'est là où la plupart pas la plupart parce que c'est 38%, mais quelques-uns des Français, donc un peu plus que le tiers, pensent que effectivement on peut restreindre les droits de ces personnes-là, entre autres au niveau de leurs droits au travail et au salaire.
Oui, puis de la même façon, dans l'univers du logement, là aussi, il y a une perception qui est assez lourde.
Oui, bien, il y a pénurie de logements qui renforce les préjugés. Donc, on pense que les logements sont de plus en plus, évidemment, difficiles à obtenir pour tout le monde. Mais imaginez, pour les personnes en situation de handicap. Donc, on parle qu'il est urgent de lancer des programmes de construction d'habitats accompagnés et d'habitats qui sont mieux adaptés aux personnes en situation de handicap.
Donc, dans une société où il y a une limitation budgétaire, les personnes handicapées sont perçues comme étant des gens qui siphonnent les fonds publics parce que c'est ça. Donc, c'est pas raisonnable. Alors là, évidemment, c'est une question, faut se questionner. Et ça nous amène à la discrimination en ligne aussi, à l'accessibilité. Il y a les discours haineux sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, parce qu'on peut penser qu'il peut y avoir des conséquences là, à cette sourde opposition au plein exercice des droits des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, juste d'entrée de jeu, moi, ça m'a fait rire un peu parce qu'on parle de Commission nationale consultative des droits de l'homme. Chez nous, on dirait des droits de la personne.
Voilà. Oui.
OK. Enfin, bon.
Mais il faut commencer quelque part, François. Donc, déjà, on a un rapport, mais c'est sûr qu'au niveau de la nomenclature, on pourrait s'en reparler.
Je pense qu'il y a un aspect historique parce que les droits de l'homme puis tout ça, Révolution française,
ainsi de suite,
à ce moment-là, c'était comme compréhensible.
C'était plus patriarcal.
Là, voilà. Alors, il y a peut-être un aspect historique là, qui est resté là-dedans. Quoi qu'il en soit, En éducation, là aussi, il y a des choses, il y a des choses à faire.
Oui, ben bien sûr, effectivement, en éducation, on parle donc en France du ministre de l'Éducation qui veut remettre l'exigence parmi ces mesures. Donc, le redoublement qui était à l'époque considéré par les parents et approuvé par les parents des enfants qu'on s'apprêtait à faire redoubler, donc à faire reprendre son année scolaire, oui. Maintenant va être demandé et approuvé par les enseignants seulement. Donc, c'est les professeurs qui vont décider de redoubler un enfant ou non.
Oh, et ça peut avoir des conséquences pour les élèves qui sont en situation d'handicap.
Oui, effectivement, c'est là où on en vient à notre sujet, François. En fait, dans le rapport du ministre de l'Éducation qui va mettre 20 mesures en place, on ne parle pas de situation d'handicap à part à un seul endroit.
Oh.
Et c'est l'endroit où on dit que le redoublement donc va être décidé par les enseignantes et enseignants, mais que les conditions pour les élèves en situation de handicap seront adaptées.
D'accord.
Ben on n'en dit pas plus sur les adaptations dont on parle. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le seul endroit où on parle des élèves en situation de handicap. Donc, parmi les 20 nouvelles mesures, aucune ne touche directement l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'école. C'est pas que c'est un besoin en France, François. Hein, tout est parfait là-bas, mais on aurait pu en parler.
Ben oui, quand on parle d'une refonte d'un coup de barre dans le domaine de l'éducation, qui est rien au sujet de la population en situation de handicap, ben ça donne l'impression qu'il va y avoir des lacunes là, qui vont s'institutionnaliser. Sensibilisation, encore les Jeux. Ah, c'est les Jeux paralympiques là, en France, ça c'est vraiment c'est une manne.
On en parle à chaque semaine et cette fois-ci, on en parle parce qu'on a développé un jeu digital pour favoriser l'acceptation du handicap en entreprise. C'est Mathieu Thomas, qui est un champion de para-badminton, qui vient lancer un jeu pour sensibiliser à une meilleure acceptation du handicap en entreprise, comme je le disais, donc en route vers les Jeux. C'est le nom du jeu qui a été mis en ligne, qu'on peut avoir sur notre ordinateur, notre tablette ou notre téléphone cellulaire et va aller sensibiliser à l'aide de vidéos, entre autres, à l'aide de sondages, les personnes sur leur vision de la personne en situation de handicap et son inclusion au niveau de l'emploi.
Parce que je pense que l'idée de faire un jeu comme ça, c'est pour permettre au public, dans un sens large, de comprendre que 80% des handicaps sont invisibles. Alors, dans ce sens-là, maladies chroniques, diabète, cancer, ainsi de suite. Et c'est important, si on veut qu'il y ait une sensibilisation du public, là, que les handicaps dits invisibles soient partis du lot. Ben voilà. Alors, après ce court tour d'horizon de ce qui se passe outre-Atlantique, dans quelques instants, on va revenir ici parce que là, il neige.
Il neige.
Ah, que la neige a neigé. Chaque fois qu'il neige au Québec, on a l'impression que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des personnes en situation de handicap qui aimeraient bien sortir de chez eux, chez elles.
Oui, effectivement. Donc, encore une fois, vous me direz que ce n'est pas nouveau, mais les personnes en situation de handicap se sentent oubliées. Il y a eu l'article dont je parle, c'est un article qui a été fait à Québec, mais on a eu les mêmes interventions qui ont été faites à Montréal, un peu partout au Québec. Là. Donc, il y a plusieurs usagers qui déplorent, le manque de déneigement adéquat, des pistes cyclables, des trottoirs, devant aussi les résidences et les différents enjeux, les différents établissements publics qui sont mal déneigés pour la lendemain d'une tempête de neige et donc qui rend les services aux personnes en situation de handicap très peu accessibles, alors que ça devrait être fait en priorité, en théorie.
Oui.
En pratique, par contre,
c'est pas pareil. Oui,
ça semble pas intéresser beaucoup de gens.
Parce qu'enjamber un banc de neige, c'est pas donné à tout le monde. Dans un article qui était publié dans le Journal de Québec, Rénal Pelletier, président du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, on parle de la région de Québec, le comité réclame le respect des politiques et règlements de viabilité hivernale que la Ville de Québec a elle-même adopté en 2020. Mais donc, c'est une question que la propre politique de la Ville de Québec ne semble pas être en application. L'épandage sur les trottoirs, les débarcadères pour les personnes à mobilité réduite devraient être priorisés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on se retrouve que les pistes cyclables sont mieux déneigées que les trottoirs, comme le mentionne Dominique Salgado du Cap-Vie. Beaucoup de personnes âgées et en situation de handicap ou à mobilité réduite, ben c'est ça. Quand il neige, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il faut chambouler notre agenda parce qu'on ne sera pas capable de sortir à l'heure. Ben, c'est pas comme s'il n'y avait jamais neigé au Québec. Hein?
Non, c'est pas comme s'il n'y avait jamais neigé, mais c'est pas comme si les personnes en situation de handicap étaient toujours notre priorité non plus.
Voilà. Parlons de priorité. Ben, il est arrivé une drôle d'affaire à Sainte, mais une affaire malheureuse à Saint-Hyacinthe.
Oui, c'est malheureux parce qu'on a une nouvelle bibliothèque, donc la bibliothèque TA Saint-Germain, qui a coûté quand même 30,5 millions de dollars. Donc, c'est quand même un investissement
important, majeur.
Et malheureusement, on se rend compte à l'ouverture que ça n'a pas été adapté adéquatement pour les personnes en situation de handicap.
Ouh, ça c'est gênant.
Ça c'est gênant.
Oui, c'est gênant. Puis ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consultation en amont aussi.
Hein? Il n'y a pas eu de consultation. Il semble que les ingénieurs qui ont fait les plans n'étaient pas en situation de handicap et ne s'en sont pas souciés ou en fait ça a été oublié.
C'est
gênant dans l'optique où on parle de plus en plus d'accessibilité universelle et qu'un bâtiment aussi neuf et un bâtiment public, donc une bibliothèque, devrait être adapté. Je n'ai pas le
cas. On peut comprendre un vieux bâti qui date du début du 20e siècle, qui va prendre peut-être un peu de temps à mettre à niveau, mais quand on parle de quelque chose de tout neuf à 30 millions. Alors, la Mascoutaine...
Ça beaucoup plus cher de mettre
ça aurait ouvert les portes à plus de gens qui pourraient lire. La Mascoutaine Janie Barré a rapidement déchanté. Et ce qui est un peu ironique, c'est que Mme Janie Barré est en fait la fille du conseiller municipal Bernard Barré. Alors, ça doit faire des bons soupers de famille. Et Janie Barré, pour l'avoir déjà entendue à des émissions, entre autres, je pense ici peut-être, mais surtout, certainement à Ami Télé, est une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle va dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est tout à son mérite.
Donc, voilà. On parle de coins, lecture et de tables non adaptées, de portes de toilettes handicapées plus étroites qu'une porte habituelle. Hein?
Oh, donc,
quand même,
faut faire exprès, là.
Faut faire exprès, ou en tout cas, vraiment pas y penser.
Pas penser, voilà, c'est ça. Les gens handicapés se déplacent tous... de côté, en béquille.
Oui, voilà. Avec une porte très lourde, en plus, à ouvrir.
Oui, hein? Tout à fait. Bon, enfin, mais il y a des adaptations qui existent. Quelque chose qui s'appelle le lit Montréal.
Oui, on ne peut pas juste parier des mauvaises choses, François. Alors, on va parier un peu de positif.
Oui.
On a le lit Montréal qui a été conçu, vous l'aurez deviné, à Montréal.
À Montréal, ah!
Donc, c'est un lit, une bassinette, en fait, qui est adaptée pour les parents qui ont des handicaps, qui ont des enfants en bas âge, qui nécessitent une bassinette. Donc, ce lit-là, on peut descendre les barreaux. En fait, pas descendre, c'est une barrière qui est coulissante pour qu'on puisse ouvrir les barreaux, pour qu'on puisse prendre l'enfant donc à notre hauteur et non pas se pencher par-dessus la bassinette, parce que pour une personne en situation de handicap, bien sûr, c'est un peu complexe. Donc, on peut bouger les barreaux sur le côté. Et puis, prendre l'enfant directement à la hauteur du matelas. Le lit Montréal, avant, on avait le lit Ottawa. Et le lit Montréal vient...
de battre le lit Ottawa, quoi.
Oui, battre le lit Ottawa, effectivement, parce que le lit Ottawa avait quand même... était mésadapté sur certaines choses, avait des mécanismes qui étaient bruyants, donc qui réveillaient l'enfant quand
c'est pas fameux.
De le mettre ou de l'enlever de son lit. C'était aussi un lit qui prenait beaucoup de place dans une chambre à coucher, donc qui était un petit peu difficile pour les parents qui habitaient, par exemple, dans des appartements où les chambres étaient plus petites.
Oui.
Le lit Ottawa était devenu désuet. Et maintenant, le lit Montréal va répondre à ça un peu plus facilement, à des meilleures mesures. Et ça devrait faciliter la vie de plusieurs parents en situation d'handicap. On en a 30 qui sont prêtés par la clinique Parents Plus.
Oui, d'accord.
Qui est une clinique qui prête des équipements adaptés gratuitement aux parents en situation de handicap. On n'a qu'à en faire la demande. Et donc, pour l'instant, on a une trentaine de lits Montréal et quelques lits Ottawa qui sont encore disponibles pour les personnes qui en auraient besoin. Donc, c'est un service gratuit et c'est un service qui est donné partout dans la province du Québec. Donc, pour ceux qui en auraient besoin, on parle de lits, mais aussi d'autres équipements adaptés, des baignoires adaptées, des produits qu'on suit aussi pour lever les enfants, pour transporter oui. l'enfant de façon sécuritaire. Donc, on peut aller voir le site de Parents Plus pour voir ce qui est disponible et demander une rencontre si jamais vous avez besoin de plus d'informations.
Pour évaluer les besoins. Super. Ça, c'est Clinique Parents, Parents pluriel, Parents Plus. Ben bravo. Ça, c'est hein, le lit Montréal, ça fait chic. La semaine dernière, tout juste après notre émission de la semaine dernière, mardi dernier, de fait, le 5, c'était la remise des prix à part entière. Et là, il y a des lauréats que nous aurons le plaisir de rencontrer ici à l'antenne Canal M au tout début de janvier, c'est-à-dire au retour des fêtes. On aura le plaisir d'avoir en notre compagnie, on l'espère bien, M. Pierre-Yves Lévesque, qui est né avec une paralysie cérébrale dans un quartier ouvrier de Montréal et qui s'est dévoué auprès des gens de sa communauté dans toutes sortes d'aspects d'éducation et d'emploi. Nous aurons le plaisir de recevoir les gens de la ville de Saguenay, qui a été récompensé pour ses initiatives voulant rendre ces lieux plus accueillants et plus inclusifs. Elle a reçu donc le prix à part entière de l'OPHQ dans la catégorie municipalité, la catégorie établissement d'enseignement soutenant la réussite scolaire. C'est l'école secondaire Chanoine-Baudet qui a remporté la palme en raison de la création d'un programme qui s'appelle la Fabrique ESCB. Il s'agit d'un plateau de stage axé sur la cuisine qui gère plus d'une quinzaine d'élèves et également les Impatients, organisme à but non lucratif d'expression, picturale et musicale, ainsi de suite, avait aussi remporté la palme. On a eu le plaisir de parler aux gens des Impatients il y a déjà quelques semaines. Donc, les autres lauréats seront avec nous au courant des prochaines semaines. On a hâte de les féliciter et d'en apprendre davantage. Maintenant, revenons à quelque chose qui est plus lourd, Élisane.
Oui, on revient à quelque chose d'un peu plus lourd. Donc, on fait un lien entre la gravité de la maladie d'Alzheimer et les inégalités de revenus dans les pays occidentaux.
Ouh.
Donc, on parle de l'Université de Montréal, l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Luina Lekaya, excusez pour le massacrage du nom.
Donc, Luina
Luina
Lekaya, d'accord.
Lekaya, voilà. Oui. C'est ce que j'ai essayé de prononcer, François.
Oui, mais donc, c'est moi, je me suis pratiqué tout le week-end.
Oui, voilà, François se pratique tout le week-end. Moi, j'ai autre chose à faire. Donc, auteur principal de l'étude, une étude qui montre, en fait, que la maladie d'Alzheimer, les symptômes s'aggravent pour les personnes qui sont en situation d'inégalité de revenus, donc qui ont des revenus plus pauvres que la moyenne, qui sont en situation de pauvreté dans les pays occidentaux.
Et là, on peut se demander, est-ce qu'il y a des questions de stimulation, des questions environnementales, des questions de dépistage, d'accès aux soins, et ainsi de suite, là, le contraire m'eût surpris, j'avoue.
Oui, effectivement, là, on peut voir quand même un lien qui est facile à faire de la pauvreté. Ça emmène du stress, ça emmène moins de sommeil, ça emmène plus de problèmes de vie. On parle d'une alimentation, des fois, qui n'est pas toujours adéquate parce que les bons aliments coûtent cher.
Oui.
Et là, bien sûr, je parle de certains des facteurs qui pourraient être en jeu, mais on parle de différents facteurs qui pourraient aussi être en lien. Donc, ce sera plus étudié par la suite. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris vraiment des études qui avaient déjà été faites et on a vu dans les études là, s'il y avait un lien entre les personnes qui avaient été étudiées, leur situation économique et la gravité des symptômes. Donc, effectivement, on a un lien ici. Un lien, par contre, qu'il faudra creuser davantage.
Oui, tout à fait, parce que cette corrélation-là qui est bien, bien réelle, bien, il faut savoir quels aspects d'une situation socio-économique faible, enfin, on va appeler ça par leur nom, quels aspects de la pauvreté en particulier, parce que là, ça peut être une piste pour nous amener à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, mais c'est très rare que la pauvreté soit quelque chose de positif dans la vie. Alors, c'est pour ça que ça... Enfin, il est très rare. Ce n'est pas, point, quelque chose de positif. J'étais cynique quand je disais ça.
Oui, on avait compris.
On avait compris. Le Canada, il y a de plus en plus de personnes qui, de 15 ans et plus, qui se déclarent comme ayant un handicap.
Effectivement, donc les personnes qui se déclarent en situation de handicap, qui sont de plus en plus importante donc au Canada. On parle du nombre qui a monté de 27% des personnes de 15 ans et plus. Donc, on parle de 8 millions de Canadiens.
8 millions? Voilà. Ouf, c'est beaucoup ça. Donc, il y a 27% des personnes de 15 ans et plus qui en 2022. Et là, parmi les Canadiens handicapés, 72% ont déclaré avoir fait face à une forme d'obstacle à l'accessibilité. 60% de ces 8 millions de personnes ont déclaré avoir fait face à des obstacles pour naviguer dans les espaces publics, intérieurs, extérieurs. Et on peut croire qu'avec le vieillissement de la population, c'est quelque chose qui va aller en s'accroissant. Alors, une fois de plus, cela milite vers l'accessibilité universelle.
Oui, et vers des programmes publics qui sont plus adéquats pour les personnes en situation de handicap et les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Peut-être que nos systèmes ne sont pas encore rendus à être capables de...
À niveau.
Voilà.
Ben, juste pour terminer, c'est Noël à l'INCA. Bravo, il va y avoir un événement virtuel Zoom mercredi, cette semaine, 13 décembre, de 13h30 à 15h. Et il va y avoir, évidemment, on parle de bonne ambiance, discussion, jeu et tirage. Bien, bonne ambiance, j'en suis sûr. Il y aura un événement en présence au bureau de l'INCA 2085 rue Parthenay à Montréal ce jeudi 14 décembre de 14 à 16 heures. Même chose, ambiance festive, discussion, musique, grignotine, pâtisserie, boisson chaude, jeu et tirage. On ne s'ennuiera pas. C'est très important de vous inscrire aujourd'hui, date limite 11 décembre, tout de suite après l'émission. Vous appelez au 514-934-4622. Vous contactez David Trudel-Bergamo et vous vous inscrivez pour la fête de Noël de l'INCA. Élisane, merci. C'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine.
Voilà, exactement. Mathieu Tessier, qui connaît tous les films de science-fiction des années 60. Claire Séguin, à la recherche, qui nous trouve tous ces sujets semaine après semaine. Et François Beauregard, au micro, qui vous dit à la prochaine.